Le but, c'est que vous puissiez non pas être écrasé par ça, mais plutôt être libéré par cet enseignement, pour que chacun puisse avoir une bonne et juste compréhension de ce que la parole de Dieu a à nous dire par l'Esprit Saint concernant l'autorité et la soumission. Voici déjà ce que nous avons compris. Premièrement, c'est que Dieu a toute autorité. Et là, je pense qu'on peut entendre un retentissant amen. On est content que Dieu n'ait jamais dépassé, n'est jamais dépassé par aucun événement. Il est assis sur le trône. Il n'est pas en train de bouger, de faire des 100 pas dans le ciel, ne sachant plus comment se débrouiller, mais Dieu est assis sur le trône. Même au moment du déluge, Dieu était assis sur le trône, nous dit la parole. Le Seigneur est toujours en parfait contrôle de toutes choses et nous avons un immense, une crainte de Dieu, un respect de Dieu à cause de cela aussi. Dieu délègue son autorité pour le bon fonctionnement de la famille et de la société. Nous en avons parlé les deux dernières fois. Il y a une délégation d'autorité qui est faite dès la Genèse. Nous voyons cela, que Dieu a délégué cela à la famille. Et dans la famille, il y a un ordre précis qu'il ne faut pas chercher à renverser. Et en même temps, nous avons aussi dit que face aux nombreuses souffrances de la famille, aux nombreux conflits de la famille, et puis aussi aux nombreuses ruptures et séparations au sein des familles, je veux proclamer et croire ce matin que Dieu donne une grâce spéciale pour des situations spéciales. Mais que nous devons toujours revenir au principe biblique, car ce n'est pas parce que le monde va mal et que tant et tant de centres familiaux ou autres, tant d'unités et de systèmes qui sont corrects aux yeux de Dieu sont brisés, ce n'est pas pour ça que les principes de la parole de Dieu ne sont plus valables. Les principes de Dieu sont valables, quelles que soient les situations, même les pires, car la grâce de Dieu est donnée pour des situations données. Une grâce particulière, chers amis, vous est donnée aussi à vous peut-être qui dites « Bien, chez moi, ça ne fonctionne plus depuis si longtemps, le principe d'autorité, qui est une bénédiction, une protection, et je dois me débrouiller, me dépatouiller tout seul. » Le Seigneur vous donne aussi une grâce particulière dans votre situation. Ce qu'il nous demande ce matin, simplement, alors que nous ne pouvons pas réparer toute chose, mais nous pouvons adhérer à la parole de Dieu. Nous pouvons l'honorer, nous pouvons l'élever, et nous pouvons la prendre comme autorité de référence suprême pour toutes les situations de la vie, même les plus brisées, comme je viens de dire. L'autorité, la juste autorité, est une autorité de service. Lui, Jésus, qui avait toute autorité, a été serviteur, il s'est rendu serviteur. Il n'est pas venu pour se servir, ni pour être maître de toutes choses avant tout, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. L'autorité est nécessaire pour poser un cadre et exercer la justice. Le cadre doit être posé par l'autorité, car sans autorité, rien ne fonctionne. Le cadre doit être posé tant au niveau de la famille que dans la société, indispensable et protecteur pour le bien-être et la paix dans la société. Exercer la justice. L'autorité permet à la vie de s'épanouir et de se développer, et non le contraire. L'autorité n'est pas là pour écraser, diminuer et empêcher la vie et les dons des uns et des autres, mais l'autorité au sein d'une structure sociale doit servir à élever et à susciter les dons des uns et des autres. Nous sommes placés comme Adam dans un jardin, dans le but de le cultiver et non pas de passer le rouleau compresseur pour que personne n'émerge, si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut élever et susciter les dons des autres et l'autorité doit servir à cela, au développement, à l'épanouissement de la vie. Le bon fonctionnement de l'autorité, c'est vrai, est une grande bénédiction. Nous avons vu également que la source de l'opposition à l'autorité, ce sont d'une part nos mauvaises expériences, ceux qui ont souffert de la part d'une autorité écrasante, d'un autoritarisme mauvais, nocif, toxique, qui vous a blessé, qui vous a laissé des traces, des blessures profondes. Il nous faut entrer en guérison, sur le chemin de la guérison. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a eu quantité d'expériences négatives que la parole de Dieu n'est plus valable. La parole de Dieu reste valable, les principes de Dieu restent debout, même malgré nos mauvaises expériences. Mais nous avons vu également que dans notre cœur, il y a un problème à résoudre. C'est la rébellion. La rébellion, la contestation est au fond de nous et c'est un germe, c'est quelque chose de naturel. Pour certains, la contestation, c'est un sport. C'est un sport national dans certains pays même. C'est un malin plaisir et les gens parfois se définissent comme étant des contestataires. Et ils se situent toujours du côté de l'opposition. Et quand ils n'ont plus rien à s'opposer, à critiquer ou à contester, ils n'existent plus. Il y a des gens qui ont leur identité dans la contestation. Je ne sais pas si dans ce groupe on trouve beaucoup de chrétiens. Mais ce matin, il nous faut être bibliques. Quelles que soient nos opinions, sociales, politiques ou autres, posons-nous la question, pourquoi est-ce que je conteste? Pourquoi est-ce que je m'oppose à une structure en place? Pourquoi est-ce que par définition, je suis toujours en train de m'opposer? Je ne dis pas que c'est la majorité ou une grande partie, mais en tant que chrétien, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi est-ce que je suis motivé dans le sens d'une contestation intérieure? D'où vient cette rébellion? D'où vient cet esprit-là? Est-ce qu'il est en accord avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est vraiment par le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours contre. Mais lorsque vous regardez de près, ils ne sont jamais pour quelque chose. Ils sont contre, mais ils n'ont pas des bonnes idées pour faire quelque chose. Ce n'est pas tout de contester, mais il faut qu'on amène des solutions. Il faut amener le pour et s'investir et s'engager, car ceux qui ont quelque chose à proposer s'investissent. Mais ceux qui contredisent souvent ne s'investissent pas du tout. C'est juste la contradiction et la contestation qui ralentit les projets, qui s'oppose par définition à l'autorité. Et nous avons lu ce texte, et je veux le rappeler encore ce matin, Romains 13, qui a été une des bases de notre méditation de la dernière fois, où il nous est dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités humaines dont il est question ici. On peut se dire, mais vraiment, est-ce qu'un tel, un tel, ou une telle, sont-ils vraiment placés par Dieu? Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ça paraît incroyable parce qu'ils sont institués et placés par les hommes, soit parce qu'eux-mêmes se sont placés ou parce qu'ils ont été votés, etc. Et puis ensuite, il est dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Verset 2. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et la parole de Dieu ajoute, pour juste donner du poids à cette affirmation, ceux qui résistent, que se passe-t-il? S'attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, on n'a pas le temps d'un débat ce matin et je ne voudrais pas qu'il y ait un débat, mais on pourrait débattre beaucoup de choses. Est-ce que certaines autorités sont-elles légitimes? L'apôtre Paul écrit aux Romains, n'oubliez pas, il écrit aux chrétiens qui vivaient au centre de l'Empire, au cœur de la dictature de l'époque, de l'Empire romain, la puissance impériale de l'époque. Il écrit à eux justement, qui voyaient aussi les dysfonctionnements de l'autorité et les choses qui n'allaient pas et les choses qui étaient de l'oppression et la privation de liberté, comme on voit dans tant et tant de pays aujourd'hui. Mais nous allons voir tout à l'heure aussi un petit point sur les limites de la soumission. Ensuite, il nous est dit, au verset 3, que les gouverneurs ou les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. C'est justement quand le gouvernement fait du mal et s'oppose à certains principes bibliques fondamentaux, c'est là que se trouve et que nous trouvons la limite de la soumission. Nous en parlerons courtement tout à l'heure, mais tout cela est donné pour votre propre réflexion. Soyez comme les chrétiens de Bérée qui prennent la parole de Dieu pour la sonder par eux-mêmes. C'est juste des pistes que je vous donne ce matin et je prie que l'Esprit de Dieu puisse ce matin œuvrer dans chacun de nous afin que nous soyons libérés, et pour moi c'est fondamental, libérés de notre esprit de rébellion et de contestation. Ce n'est pas toujours faux de s'opposer ou d'avoir une bonne idée contraire à celle qu'on nous propose. C'est parfois même très bien. En Suisse, nous avons le privilège d'avoir des initiatives. Si vous avez une bonne idée, rassemblez 100 000 signatures et on vous écoutera à Berne. Faites-le. Donc nous avons le privilège de pouvoir interagir dans notre démocratie. Mais simplement contester parce que ça vous habite, il y a un problème et il faut être libéré de ce problème. Il faut que nous puissions venir à la croix parce que la parole de Dieu dit encore, dans Romains 8 et au verset 7, « Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Et nous venons de parler d'une loi de Dieu. La chair ne se soumet pas, elle ne peut pas. Il est dit, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. Romains 8, verset 7. Cela veut dire que nous avons besoin d'un cœur changé. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous libère. Besoin de la repentance et de la reconnaissance de nos fautes. Et dire, Seigneur, comment ça se fait que non seulement j'ai mon avis à donner sur la société, la politique, etc., mais comment ça se fait que cet esprit de contestation, il est partout présent? Il est présent dans ma famille. Et je l'ai marqué à la fin, tôt ou tard, nous récoltons ce que nous semons. Ne devez pas vous étonner que si cet esprit de contestation est là, vous allez récolter la même chose. On va vous contester. On va se rebeller. Vous allez être en opposition, on va s'opposer à vous. Il y a un principe de Dieu qui doit être appliqué pour être libéré aujourd'hui. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à celui qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. 1 Pierre 2, 17 dit « Honorez Dieu ». Mais il est aussi dit, tout de suite après, « Honorez le roi ». Il y a un honneur. Pas seulement juste ne rien dire. La parole de Dieu va beaucoup plus loin que juste ne pas entrer dans une rébellion, une contestation, mais elle nous dit priez pour les autorités, honorez le roi. Reconnaissez, bénissez, soutenez par votre prière et votre bonne attitude. Et l'apôtre Pierre va dire que votre lumière luise devant tous les hommes afin que ceux qui ne craignent pas Dieu puissent voir vos bonnes œuvres. Et les chrétiens doivent exceller en bonnes œuvres, dans des projets valables. Et notre Église, entre autres avec d'autres églises à Genève, nous sommes reconnus œuvres d'utilité publique. Pourquoi ? Parce que nous avons des choses bonnes à proposer au public en dehors. Et nous devons exceller dans ces choses-là. Nous devons grandir et pas seulement nous faire du bien entre nous, mais nous devons être une bénédiction pour la société qui est autour de nous. Je voudrais que nous puissions élargir notre vision ce matin. C'est important que nous ayons des bonnes choses. Les chrétiens devraient avoir les meilleures idées pour qu'il y ait des choses qui changent dans notre société, des projets qui vont de l'avant et qui sont utiles à petit, moyen ou grande échelle. La soumission. La soumission, c'est la mission sous. C'est l'action de se ranger sous l'autorité en la reconnaissant et accepter d'être chargé d'une mission. D'être en mission sous. C'est là que la soumission devient une bénédiction. Vous avez un très bel exemple dans Luc chapitre 7 où un certain homme à haut gradé de l'armée romaine vient vers Jésus. C'est un centenier. Et vous pourrez lire dans ce texte que cet homme se définit clairement dans son fonctionnement militaire. Et il va dire, eh bien, Jésus, je voudrais que tu viennes chez moi et que... Enfin, il envoie des serviteurs, des anciens vers Jésus pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ceux-ci donc arrivent auprès de Jésus, le supplient de manière pressante et ils disent à cet homme, aime notre nation, c'est lui qui a bâti la synagogue. C'est un homme de bien, c'est un homme qui a fait quelque chose alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il était romain, alors il a bâti même la synagogue pour les juifs. Et le centenier va encore envoyer des amis vers Jésus, verset 6, vous lirez cela. Et il dira, Seigneur, ne te prends pas trop de peine parce que je suis convaincu que l'autorité qui est en toi, elle marche de toute façon. Par un simple ordre que tu vas donner, l'autorité fonctionne. Car moi, je fonctionne comme ça. Moi, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. Il dit à l'autre, viens et il vient. Fais ceci et il le fait. Et lorsque Jésus va entendre ces paroles, il va admirer le centenier et il va lui dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il avait compris que l'autorité, ça fonctionne et l'autorité de Jésus fonctionne aussi. Il est soumis à son Père, c'est pourquoi il a l'autorité. Votre autorité fonctionnera lorsque vous êtes soumis, lorsque vous êtes en mission sous. Lorsque de cœur, vous êtes en mission sous. Alors la mission et la soumission devient une grande bénédiction. Il n'y a pas d'autorité, retenez bien ça, frères et sœurs, il n'y a pas d'autorité s'il n'y a pas de soumission quelque part. Vous ne pouvez pas avoir une autorité vraiment légitime et reconnue si vous refusez d'être en mission sous quelqu'un. Si vous n'êtes pas soumis, il n'y a pas d'autorité légitime. Cet homme va reconnaître aussi les sphères d'autorité. Il n'a pas autorité sur tout Rome. Il a l'autorité sur son bataillon, c'est tout. Et il sait comment ça fonctionne. C'est l'autorité qui a été déléguée et il la comprend. Frères et sœurs, je voudrais que dans l'Église, nous puissions comprendre l'autorité déléguée. Par exemple, dans le groupe Louange, celui qui dirige la louange, c'est lui qui a l'autorité, qui dirige, qui est chef. Et même si les musiciens sont capables d'être chefs aussi, lorsqu'il y a le groupe Louange, on est soumis à un chef pour que ça fonctionne bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et le leader de louange fonctionne comme ça. C'est une autorité déléguée. On ne peut pas tous être chefs ensemble, sinon c'est la cacophonie. Mais pour que l'orchestre, pour que le groupe puisse bien fonctionner, il faut accepter d'être soumis à quelque chose, à quelqu'un. Il faut savoir se ranger et accepter un rôle de soumission face à un supérieur. La soumission, c'est être en mission sous. La racine de l'insoumission, car le but de ce message ce matin, c'est de mettre en lumière nos rébellions cachées et nos insoumissions continuelles parfois, et voir peut-être d'où ça vient. L'insoumission trouve son origine dans l'orgueil, et nous voyons ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité, qui est véritablement ce que Satan va faire, alors qu'il est encore Lucifer, l'ange de lumière dans le ciel. Il va à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, et on ne pourra jamais l'expliquer humainement, il y a eu ce mystère qui nous dit qu'à un moment donné, il s'est rebellé, il voulait être plus haut que Dieu, il voulait avoir une place qui ne lui revenait pas, et à cause de cet orgueil, vous lirez ça dans Ézéchiel au chapitre 28 et Ésaïe 14, vous verrez dans ces deux chapitres ces prophéties sur ce qui s'est passé dans le ciel lorsque Satan a été éjecté du ciel à cause de son orgueil, à cause de son insoumission. Frères et sœurs, au ciel, il n'y a pas de place pour l'insoumission. Si nous pouvions connaître Dieu tel qu'il est, nous n'aurions jamais la moindre idée de le contester, de lui dire « non, Seigneur ». Mais c'est parce que nous sommes habités, formatés et influencés par ce qui se passe sur la terre ou par les mensonges du diable, que nous avons cette contestation de l'autorité, mais aussi indirectement sur Dieu. Lorsqu'Israël était dans le désert, il contestait contre Moïse. En fait, il contestait contre Dieu, mais il contestait Moïse, mais c'était une contestation contre Dieu. Nous devons savoir que cette contestation, c'est parce que nous connaissons mal le Seigneur. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Dieu qui est omniscient, qui est tout-puissant, qui dans le ciel. Est-ce que vous imaginez que dans le ciel, il y a quelqu'un qui se lève, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Seigneur. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Dans le ciel, il y a une unanimité parfaite et continuelle. Tout le monde dit oui au Seigneur et tout le monde l'adore. L'adoration est continuelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est une adoration glorieuse qui ne laisse aucune place même à l'idée de dire non. Et pourtant, nous lisons dans Luc chapitre 16, un épisode assez parlant de cet homme, de ce riche qui meurt en même temps que Lazare. Lazare qui est au paradis, dans le sein d'Abraham, et ce riche qui est dans les tourments. Il est dans les tourments, nous dit la parole, non pas parce qu'il est riche, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a dit non à Dieu. Et on le voit dans le texte, vous le relirez chez vous, lorsqu'il est en train de discuter dans les tourments. Il dit, mais Père Abraham, il essaye de discuter avec lui pour dire, Père Abraham, envoie quelqu'un sur la terre, afin que mes frères ne viennent pas dans ce lieu. Et Abraham va répondre, ils ont les prophètes et les écrits, qu'ils les lisent. Et cet homme va dire cette parole incroyable. Il va dire cette parole incroyable. Vous la lirez au chapitre 16 et au verset 30 pour ceux qui veulent noter. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et cet homme, au fond de sa détresse, au fond des tourments de l'enfer, il va dire, non, Père Abraham, Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il va encore dans l'éternité dire non. Et ça nous parle, n'est-ce pas? Si nous disons non à Dieu ici-bas, et si nous persistons, dans l'éternité, nous dirons encore la même chose. Il n'a pas changé d'avis. Il est parti dans les tourments parce qu'il a dit non à Dieu. Et dans l'éternité de perdition, il persiste et il signe « Non, Père Abraham, je ne suis pas d'accord avec toi. » Mes amis, dans le ciel, il n'y a pas de place pour la contestation. C'est pour ça que Satan a été éjecté du ciel. Et si nous allons de l'avant, et j'aimerais le dire avec force, dans la contestation et dans la rébellion contre l'autorité, les autorités placées par Dieu, même si ça ne nous plaît pas, même s'ils ont des torts, même s'ils ne sont pas de loin pas parfaits, même s'il y a des enjeux de toutes sortes, politiques, financiers, de pouvoir, etc., si nous persistons dans la contestation, nous avons le risque de nous endurcir et à la fin, nous ne pourrions plus dire vraiment oui au Seigneur. Ne prenons pas le risque de nous endurcir comme cet homme l'a fait et qui a dit non. Et puis dans l'éternité même, il signe encore, il confirme « Non, Père Abraham ». C'est très important cela. Le problème de l'orgueil, ne dites pas que ça c'est pas votre problème parce que vous êtes humble, vous n'avez pas de position très importante, c'est pas votre problème. Le problème de l'orgueil est un problème qui est dans chaque cœur de l'homme. Nous avons tous la problématique avec la fierté, l'orgueil parfois très caché, très subtil et très caché. Fierté, orgueil sont des choses qui étaient à la racine de la rébellion de Satan. C'est pourquoi il n'avait pas de place dans le ciel. Mais mes amis, j'ai devant moi une assemblée qui veut aller, qui est promise, qui est destinée au ciel sans exception. Mais aujourd'hui, vous devez dire, Seigneur, oui Seigneur, tu as raison. Oui Seigneur, je me soumets. Oui, j'accepte les principes de la parole de Dieu. Oui Seigneur, je vais être libéré de mes racines et de mes germes de rébellion qui ressurgissent continuellement. Seigneur, je vais être libre de ça. Je les reconnais, je mets le doigt dessus et je laisse le Saint-Esprit agir et le sang de Jésus purifiera de tout péché aujourd'hui. La soumission trouve sa racine dans l'orgueil et le Seigneur désire que nous soyons en mission sous, par amour. L'apôtre Paul est un bel exemple à ce sujet. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 9, 19 que... Il va dire, mais j'ai beaucoup de droits, j'ai beaucoup de privilèges. J'ai le droit, en tant qu'apôtre qui a implanté l'église à Corinthe, j'ai le droit de vous dire certaines choses et d'imposer certaines choses. Mais je ne le fais pas, parce que je veux vous gagner. Je veux me faire tout à tous. Je veux même être faible avec les faibles. Je vais être à votre portée. Je vais encore vous gagner vos cœurs plutôt que de vous imposer les choses. Et à Philémon, il va dire quelque chose d'extraordinaire, alors que Paul est en prison. Il écrit... C'est pourquoi, dans Philémon, verset 8, « Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, donc au nom de l'amour, que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Il pourrait prescrire à Philémon des choses. Il a le droit, l'autorité, l'âge, la sagesse, il est vieux. Il pourrait commander quelque chose en tant que patriarche, en tant qu'apôtre qui est reconnu d'une manière internationale, on va dire. Eh bien, il dit, je préfère, au nom de l'amour, m'adresser à toi. J'aimerais susciter en toi une réponse d'amour. Je n'aimerais pas t'imposer quelque chose, mais je veux susciter l'amour. C'est ce que nous faisons en tant que parents, n'est-ce pas? Quand on a tout essayé par la force, par tous les moyens... On veut attirer par l'amour et c'est cette façon-là qui est vraiment celle, je crois, fondamentalement que Dieu bénit. Jésus a été comme ça. Il aurait pu imposer, il aurait pu faire toutes choses comme il voulait, il avait l'autorité. Mais il était serviteur, il est venu gagner le monde par son amour. Jésus gagne le monde par son amour et par sa grâce avant tout. Bien sûr, il viendra avec puissance et autorité en son temps, mais pour l'instant, il veut gagner ton cœur par l'amour. Laisse-toi gagner par l'amour aujourd'hui. Dans la société, c'est vrai, il faut le dire, nous n'acceptons pas toujours la soumission par amour. Lorsque vous avez un contrat de travail, vous travaillez aussi parce qu'il y a un salaire à la fin du mois. Et lorsque vous êtes sur la route, vous n'obéissez pas toujours par amour, mais parce que le code de la route vous oblige et que les radars sont placés partout pour, et que les amendes qui pleuvent nous font crever tout à fait notre budget. C'est quand même contradictoire, n'est-ce pas? C'est qu'on veut tous la sécurité. Alors si on veut tous la sécurité, pourquoi il y a des radars partout? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous freiner pour qu'on respecte le code de la route? Il y a une contradiction à cause de notre difficulté de nous soumettre pleinement. Nous voulons encore une fois relire un texte. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, et nous lisons les versets 13 et 14. 1 Pierre 2, 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, toute autorité humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficile, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. L'apôtre Paul sait très bien que c'est difficile de se soumettre aux autorités supérieures. Lorsque ces autorités n'ont pas l'esprit de l'Évangile, étant des autorités de service, mais plutôt des autorités contraignantes, qui au lieu de cultiver et d'élever le don des autres, font le contraire. L'apôtre Paul sait très bien que très souvent ça se passe comme ça et qu'il y a une souffrance injuste. Mon frère, ma sœur, si tu souffres d'une manière injuste dans cette situation, et je suis sûr qu'il y en a qui souffrent d'une manière injuste, le Seigneur a dit, c'est une grâce que de supporter ça. Regardez au verset 20. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter des mauvais traitements pour avoir péché? Si on vous punit parce que vous avez triché, volé, menti, etc., ce n'est pas une grâce, ça, c'est une justice. Mais, écoutez le verset 20, si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne peux pas t'en sortir dans une situation où tu souffres par une autorité qui te semble vraiment pas correcte, injuste. Je ne parle pas de questions salariales ou autres, juste une souffrance, une peine, une morale, une injustice, une blessure. Dieu te dit ce matin, c'est une grâce devant Dieu. Et Dieu te dit aussi, malgré cela, parce que mon esprit habite en toi, tu auras une force, tu auras une grâce, tu auras un rebondissement, tu auras un rayonnement, tu auras une attitude qui va honorer Dieu et qui peut faire fléchir même l'autorité en question. Il peut y avoir des retournements de situation où l'autorité, à un moment donné, reconnaît que cet employé, il est tellement différent des autres qu'il va cesser de s'acharner dessus pour retourner la chose. Il y aurait bien des exemples à citer où des personnes ont vécu cela. C'est une grâce devant Dieu de supporter. Et Dieu dit, moi je sais très bien que dans la société, il y a de multiples exemples où l'autorité au-dessus de nous n'est pas une bonne autorité, n'est pas exemplaire. Mais c'est mon école pour vous. Dieu dit, c'est mon école. Tu es en apprentissage. Tu es à l'école pour apprendre des choses, à te serrer contre ton Dieu, à régler tes problèmes, à lutter contre l'amertume, à lutter contre la vengeance. Et au contraire, non seulement de supporter, mais de bénir en retour ceux qui font du mal. Au contraire, prier pour eux. Combien de frères et sœurs dans le monde sont dans cette situation et sont à la même école que nous? L'apôtre Pierre va écrire tout cela alors que il écrira aux chrétiens dispersés dans tout l'Empire romain. Et cette note de la souffrance des chrétiens est très présente dans 1 Pierre. Et il sait très bien de quoi il parle. Donc, acceptez l'autorité. Pourquoi? Et vous pouvez souligner cela. Moi, je l'ai souligné dans ma Bible ici. À cause du Seigneur, verset 13. À cause du Seigneur, dit l'apôtre Pierre. Il commence par là. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité humaine. À cause du Seigneur. Par respect, par honneur pour la parole et pour Dieu, par honneur pour Dieu, je reçois la capacité de me soumettre. Éphésiens 5, 21, deuxième texte, Éphésiens 5, 21 nous dit ceci. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ, c'est aussi pour respecter, pour honorer, pour craindre Dieu. Je crains Dieu, c'est pourquoi j'obéis à cette parole. C'est parce que je crains Dieu. C'est pas parce que j'ai envie. Dans ma chair, j'ai pas envie. Ma chair refuse. Mais l'Esprit de Dieu en moi, à cause de la crainte et du respect et de l'honneur que j'ai pour Dieu et sa parole, je l'accepte, je me soumets. Et encore dans Romains 13, verset 5, nous l'avons déjà lu aussi, mais je le relis encore une fois, Romains 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Par motif de conscience. J'ai une conscience réveillée par l'Esprit de Dieu. Et cette conscience réveillée par l'Esprit de Dieu me dit, respecte, honore, bénis l'autorité, reconnais-la et prie pour elle. Choisissons d'accepter l'autorité. Il y a des personnes qui disent, des chrétiens qui disent, eh bien moi je suis soumis qu'à Dieu, pas aux hommes. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est prendre Dieu comme prétexte, comme argument, et se cacher derrière pour valider son insoumission et sa fierté. Ou bien des personnes qui disent, mais Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, moi j'ai plus rien à répondre. Je ne vais pas contester Dieu, donc si Dieu t'a dit, je te laisse tranquille. On ne peut plus parler, on ne peut plus échanger, c'est un argument pour se cacher, pour ne pas se laisser remettre en question. C'est un refus du changement qui est derrière ce genre de paroles, parce qu'on veut rester libre et ni se soumettre à qui que ce soit. Hébreux 13, 17 nous dit, c'est pas souvent que je lis ce texte, mais je le lis ce matin, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes dont ils doivent rendre compte. Et faites-le de tout cœur afin qu'ils ne le fassent pas en gémissant. » Frères et sœurs, les pasteurs qui sont placés là, en tout cas dans notre église, ce ne sont pas des pasteurs autoproclamés qui veulent une place. Nous sommes là parce que Dieu nous a placés. Si vous voulez plus les détails, je vous raconterai mon histoire, Jean-Paul racontera la sienne, etc. Et d'autres niveaux d'autorité dans l'Église peuvent dire la même chose. Il n'y a pas d'autorité autoproclamée, celle-là n'est pas légitime. Mais Dieu nous a placés. Dieu dit dans l'Église, il a placé les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dieu a placé premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, etc. Dieu a placé, c'est lui qui gère son église, je bâtirai mon église. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que sous autorité, avec une autorité déléguée. C'est pourquoi l'apôtre dit dans Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Je pourrais vous raconter bien des choses où, tout en sachant que je me suis aussi trompé, mais je pense que quand Dieu délègue une autorité, il met aussi une onction dans l'autorité. Il met une onction dessus, dont souvent le conducteur ne se rend pas compte. Souvent. Mais je sais, et j'ai plusieurs exemples en tête, je ne vais pas vous dire pour ne pas faire reconnaître des situations, où des personnes n'ont pas écouté le conseil inspiré qu'il y avait à ce moment-là et se sont vraiment fourvoyées. Je pense à une situation où il y a eu une perte d'argent considérable simplement parce qu'il y a eu non-écoute du conseil qui a été donné. Je ne veux pas dire qu'on a toujours raison, non. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette soumission est une bénédiction pour l'Église, il faut le dire. Quelques exemples maintenant. Retenons, à cause du Seigneur, par motif de conscience, dans la crainte de Christ, ces textes doivent être importants. Soumission, par amour, nous l'avons déjà dit, reconnaître l'autorité, la respecter, l'honorer, et aussi prier pour elle. Les limites de la soumission. Quelques exemples. Le cadre, c'est Éphésiens 5, 21. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, c'est dans la crainte de Dieu, dans le respect de la parole et de la personne et la présence de Christ, c'est là que nous avons le cadre. Lorsqu'un ordre est fondamentalement anti-biblique, avec par exemple l'obligation de trahir les valeurs fondamentales de la parole, de la conscience et des 10 commandements en particulier, quand on nous oblige de mentir, de tricher, de voler, etc., eh bien, que faut-il faire? Il faut du courage. Et il faut du courage pour dire non, pour dire non. Et Dieu peut vous donner la sagesse pour aller trouver votre patron qui vous demande, par exemple, au téléphone, à la réceptionniste, de dire, écoute, dis que je ne suis pas là, puis il est juste à côté. Ne vous laissez pas entraîner dans ces choses. Dieu vous aidera à vous positionner. Positionnons-nous clairement comme des chrétiens Nous ne sommes pas obligés de mentir par délégation, non. Nous voulons respecter la parole de Dieu, l'honorer, craindre Christ, honorer Dieu, et lui va nous honorer. Si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Il y a des personnes qui peuvent dire, moi j'ai été trouver mon patron, je dis, écoutez, vous pouvez me demander ça, 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 mais je ne mentirai pas, je ne tricherai pas, et je ne dirai pas des choses qui sont fausses, alors que je le sais qu'elles sont fausses. Arrangez-vous autrement, mais je le ferai pas. Il y a des personnes qui peut-être ont été sous pression, mais lorsque le patron voit que vous avez un standard moral de ce niveau-là, il ne va pas vous licencier comme ça, s'il est intelligent. Il va vous garder parce que vous avez une morale et que vous êtes des gens de valeur. Résistez, ne vous laissez pas entraîner dans tout cela afin de ne pas se mettre Dieu à dos. Lorsque la demande est immorale, ignoble, inacceptable, même au sein du couple, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, mais je dirais ce matin, si vous avez un mari qui vous demande des choses qui sont juste inacceptables, immorales ou autres, vous avez le droit, parole de Dieu en main, de résister et de dire non, non. La limite ne peut pas être franchie lorsqu'il s'agit de se mettre le Seigneur à dos. Non, ce n'est pas possible. Et même dans l'Église, que Dieu nous garde de ne jamais entrer dans ce genre de choses que j'entends trop souvent. Des pasteurs abuseurs, ça existe, qui visitent les maisons, qui ont un objectif précis d'avoir votre argent, qui se baladent dans votre maison et qui veulent inspecter vos pièces pour prier, pour bénir, pour mettre de l'huile sur vous, sur certaines parties de votre corps. Résistez à cela, mettez-les dehors, ce sont des charlatans. Discernez, frères et sœurs. J'ai entendu des choses qui m'ont littéralement fait bondir et je me dis, mais si je pouvais téléphoner là-bas, il y a des pasteurs, je vous le dis franchement, comme je l'ai entendu, et ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, des pasteurs qui téléphonent depuis un autre continent, qui vous disent au téléphone, Dieu m'a montré que chez vous, il y a tel et tel esprit. Mais si vous voulez être délivré de cet esprit, je vais vous montrer le chemin à faire. Vous allez commencer à jeûner, vous allez faire des offrandes, vous allez vous rassembler. Et ils manipulent depuis l'étranger, ils manipulent des gens comme ça, chez eux, qui sont dans la terreur, dans la crainte, parce qu'ils croient dans ce genre de prophétie bidon. Mais ce n'est pas possible. C'est juste révoltant. Quelle manipulation, frères et sœurs, soyez s'il vous plaît, soyez sages et intelligents, ne vous laissez pas mettre sous de tels jougs. Quel crédit ont-ils ces gens? Quel crédit ont-ils? Prophétie, manipulation, qui dit, le Seigneur me montre qu'il y a ici 10 personnes qui vont donner 1000 francs à l'offrande. C'est pas inventé ce que je dis là. C'est déjà dû, entendu dans les conventions et dans des choses comme ça. La manipulation d'autorité qui est fausse. Nous devons avoir du discernement et la crainte de Dieu. Et vous avez une église qui est là pour vous sécuriser. Si vous dites ce genre de choses se passent, venez trouver vos pasteurs qui ont, je pense et je l'espère, un crédit qui vont le garder jusqu'à la fin de leur jour. Notre vie parle. Quel crédit ont ces gens qui vous font de telles manipulations horribles? Et je ne vous dis pas la suite, parce que quand ces personnes devaient se rassembler pour jeûner et prier, ils ont dû passer la nuit ensemble dans un groupe et tout ce qui s'ensuit est arrivé. Pas la peine d'en parler. Je termine mon message ce matin avec ces limites que nous avons parlé. Juste la dernière diapositive, la voici. La soumission est une bénédiction, car c'est la clé pour l'autorité spirituelle. La soumission est une force pour résister. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne vous soumettez pas à ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas aller contre le diable qui est le prince de la rébellion, le prince du mensonge. Vous ne pouvez pas lui résister. Mais lorsque vous avez cette soumission à Dieu, vous avez l'autorité pour le mettre en fuite. Résistez-lui. Et puis ensuite, et pour finir, la soumission est une véritable protection. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les versets qui précèdent, c'est être rempli du Saint-Esprit. Soyez rempli de l'Esprit, chantez dans vos cœurs. Il est dit, soyez rempli de l'Esprit, puis aussi soumettez-vous les uns aux autres. Un chrétien rempli de l'Esprit est un chrétien capable de se soumettre. Entretenez-vous par des psaumes, rendez toujours grâce à Dieu et soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est la caractéristique d'un chrétien rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, versets 18, 19 et 20. Alors ce matin, nous terminons en disant, traitons radicalement toute forme de rébellion, tout germe de rébellion, afin de ne pas ressembler à Satan qui, par orgueil, a péché et a été éjecté du ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas de contestation. Donc ce matin, je veux être libre de toutes mes contestations intérieures. Je veux marcher par l'esprit, vivre dans une véritable autorité de service et me soumettre de tout mon cœur pour résister au diable, pour être protégé et pour avoir moi-même une autorité spirituelle. Amen.